Bonjour et bienvenue dans l'entretien de l'intelligence économique, l'émission consacrée aux coulisses de la mondialisation. La pieuvre est partout. Elle a même eu ses entrées à la Maison Blanche. Je parle évidemment de la mafia italo-américaine dont le rêve depuis le début du XXe siècle est de placer un de ses hommes derrière le bureau ovale. Elle n'est pas loin d'y être parvenue si on en juge par l'enquête extrêmement fouillée de mon invité. Une enquête qui porte sur les relations des 10 derniers présidents américains avec la mafia. Jean-François Guéraud est commissaire général de la police nationale et il publie aux éditions Plomb « La mafia et la Maison Blanche, un secret si bien gardé de Roosevelt à nos jours ». Bonjour Jean-François Guéraud.
Bonjour.
Bon, dans votre livre, vous parlez évidemment de Roosevelt, mais on sent que ça commence vraiment très fortement, cette intrication entre la mafia et les présidents américains avec les Kennedy. Un père qui est complètement dedans, un fils John qui est un peu perdu, et puis l'autre fils Bob qui est sabre au clair contre la mafia.
Oui, c'est ça, c'est une tragédie grecque avec trois personnages très étonnants. Le père, Joe, qui a créé la dynastie, qui depuis les années 30 fait des affaires avec la mafia italo-américaine et qui veut porter un de ses fils au pouvoir. On a John, un homme très intelligent, mais très insouciant et très vulnérable, qui a des relations douteuses avec la mafia. Et on a Robert, le jeune frère, qui lui est un croisé de la lutte anti-mafia depuis les années 50. Donc c'est un trio, c'est une tragédie grecque très étrange et qui va se dénouer lorsque John va être élu président des États-Unis, va prendre la Maison Blanche en 1961. Et il prend une décision qui va avoir un rôle historique absolument extraordinaire. Il nomme son frère Robert Kennedy, ministre de la Justice, donc à la tête du FBI. Et donc la mafia ne comprend pas, elle se sent trahie et subitement elle a peur.
Elle se sent trahie parce qu'elle pensait que c'était son homme ?
Mais oui, parce qu'elle pensait qu'elle avait passé, et en effet elle avait passé un pacte, il y a un pacte entre le père de la dynastie, Joe Kennedy, et puis la mafia italo-américaine, c'est un pacte avec le diable, c'était un espèce d'accord, un échange, puisque la mafia à l'époque contrôlait de manière clientéliste des paquets de voix. Et ils ont amené des paquets de voix pour l'élection de John Fitzgerald Kennedy. Il ne faut pas oublier que l'élection en novembre 60 face à Nixon est l'élection qui se joue à l'écart de voix le plus petit de l'histoire des États-Unis.
Ils ont hésité, la mafia, entre Nixon et Kennedy, justement ce que vous dites dans le bouquin.
Voilà, en réalité, la mafia, elle n'est ni républicaine ni démocrate. Elle mise sur tout le monde en même temps. Voilà, et puis elle regarde qui gagne au final. Et elle dit au vainqueur, mais vous savez, c'est un peu grâce à moi. Donc c'est un problème de perception.
C'est quoi le mode opératoire pour avoir ces hommes-là ?
Il faut comprendre que la mafia italo-américaine, c'est une organisation criminelle, c'est aussi une société secrète qui agit avec deux outils qui sont toujours les mêmes, la corruption, l'argent, et puis l'intimidation, donc la menace de la violence. Avec en plus une autre dimension par la mafia italo-américaine, c'est qu'elle contrôlait des blocs de voix.
Ouais.
Elle avait une vraie domination sur la communauté italo-américaine qui vivait encore recluse dans des Little Italy. Elle contrôlait les grands syndicats de salariés, les Teamsters et les Longshoremen, c'est-à-dire les camionneurs et les dockers, etc. Donc elle avait un pouvoir économique et social absolument considérable, mais pouvoir qui remonte aux années 20-30.
Ouais. Et la suite, c'est avec Nixon. Lui aussi, complètement dedans ou pas ?
Totalement. Nixon est...
Vous êtes dur avec lui, hein ?
Disons qu'il y a des preuves aujourd'hui du fait qu'il a été un président mafieux. Alors, il a eu certainement d'autres qualités en politique intérieure et en politique internationale, mais depuis le début de sa carrière, dès la fin des années 40, il vit main dans la main ou à côté de gangsters très connus, et tout ça est bien établi. Mais il n'est pas le seul. Johnson avant, je parle aussi longuement de Truman. Donc on a toute une série de présidents démocrates ou républicains qui ont eu des relations très douteuses. Mais là où je veux vous rejoindre, c'est que Nixon est certainement celui qui a été le plus en odeur de mafia.
Et après, ça se calme un petit peu avec les présidents suivants ou pas ?
Alors, avec Ford et Carter, il n'y a rien de bien probant. En revanche, on ne peut avoir plus que des doutes avec Ronald Reagan, qui manifestement a été très compromis. Évidemment, par la suite, il y a le cas de Donald Trump. Et puis entre les deux, on a deux présidents démocrates dont on parle assez peu quand il s'agit de la mafia italo-américaine. Mais on a Bill Clinton et Barack Obama aussi qui soulèvent de vrais questionnements. J'essaye d'apporter des éléments de preuve factuelle sur cette problématique.
Qu'est-ce que ça dit sur l'appareil d'État américain ?
Je crois que ça dit deux choses. Tout d'abord, ça révèle combien la mafia italo-américaine est une réalité criminelle profondément enracinée dans l'histoire politique du pays. Voilà, c'est une vraie superpuissance qui, aujourd'hui, n'est pas moribonde. Elle est peut-être moins visible, mais elle n'est pas moribonde. Et puis, ça nous rappelle aussi une réalité, mais très ancienne, de la vie politique américaine, c'est le rôle de l'argent, ouais. Le poids de l'argent dans les élections. Hein ? Alors, c'est l'argent de la mafia italo-américaine, mais c'est aussi l'argent des grands lobbies, des grandes industries.
C'est vrai qu'on a cru que c'était terminé, l'histoire de la mafia italo-américaine. Mais on va écouter là un président, un ex-président, qui s'appelle Trump. On va écouter la manière dont il se compare avec un des grands de la mafia, qui a été Al Capone.
On m'a inculpé plus de fois qu'Alphonse Capone. Vous avez déjà entendu parler d'Al Capone ? Al Capone. C'était le plus grand de tous les mafieux. Scarface. Vous avez déjà vu le film Scarface ? Il avait une cicatrice qui allait d'ici jusque-là. Et j'imagine qu'il aimait probablement sa cicatrice, qu'il trouvait que ça lui allait bien. Mais Al Capone a moins été inculpé que moi. J'ai été inculpé parce que j'ai contesté une élection truquée.
Là aussi, est-ce qu'on retrouve le même schéma que les Kennedy ? Un papa Trump qui est assez lié avec la mafia et donc un Donald Trump qui lui aussi risque d'avoir des relations un petit peu ambiguës avec la mafia.
D'une certaine manière, oui, parce que Donald Trump est le fils de son père, c'est un héritier. Son père était déjà un promoteur immobilier à New York, à Brooklyn. Il faisait déjà des affaires avec la mafia italo-américaine. Et Donald Trump, lui, va faire aussi du business dans les années 80-90. Il va fonder sa fortune en faisant des affaires donc, dans deux secteurs qui, à l'époque, étaient complètement tenus par la mafia italo-américaine. D'une part, la promotion immobilière et d'autre part, les casinos dans le New Jersey. Et là où cet entretien est intéressant, c'est qu'on voit combien l'homme Trump est fasciné par les mœurs, par la rhétorique, par la sémantique mafieuse, et il y fait souvent référence.
Et c'est ce que vous dites dans ce livre. Hein. On sent qu'il n'a peur de rien dans sa carrière, Trump, sauf le respect qu'il doit à des gens, on vous dit dans le livre, qui sont très liés à la mafia.
Oui, et vous savez, Donald Trump fait partie de ces capitalistes américains qui, en définitive, voient la mafia moins comme une organisation criminelle que comme une forme de capitalisme sauvage, débridé, un peu cynique. Just business. C'est l'éthos du profit avant tout.
Ouais. C'est, d'ailleurs, dans son entourage, hein, c'est plutôt un avocat qui est classé justement très proche de la mafia, qui va admirer. Et quand cet homme va mourir, il va regretter son absence. Quoi.
Exactement. Vous faites référence à Roy Cohn, voilà. Hein, qui était une des très grandes vedettes du barreau des États-Unis, d'ailleurs, dès les années 50. Mais je montre dans mon livre qu'il y a dans l'histoire des relations entre la mafia italo-américaine et le big business et puis les hommes politiques, tout un tas d'avocats qui ont agi dans l'ombre, qui ont été ce qu'on appelle en anglais des fixers, c'est-à-dire des arrangeurs, des intermédiaires entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Mmh. Roy Cohn est l'un d'entre eux. Mais je décris longuement, par exemple, la figure de Sidney Korshak, qui a été un homme tout à fait central dès les années 60 et jusqu'à Ronald Reagan, par exemple.
Alors, pour revenir, mais c'est dans les années 60, c'est des chanteurs, des crooners, ce que vous montrez très bien dans le livre, encore une fois, Frank Sinatra, qui joue les intermédiaires.
Oui. Oui, Frank Sinatra n'est pas uniquement un comédien et un chanteur de grand talent. Il a été, au sens technique du terme, un associé de la mafia italo-américaine. On sait qu'il y a des preuves aujourd'hui du fait qu'il portait des valises pour la mafia quand il s'agissait de sortir de l'argent de Cuba. Donc c'est un homme qui doit une grande partie de sa carrière, évidemment, à son talent propre, mais aussi à la mafia italo-américaine qui lui a permis de revenir dans la course du show business. Et Frank Sinatra s'était beaucoup engagé auprès des familles de la mafia italo-américaine, auprès de la famille en particulier de Chicago, The Outfit, sur le thème « Moi, je peux vous aider à amener les Kennedy dans notre périmètre. Je vais faire l'intermédiaire, l'intercesseur.
» Alors, qu'est-ce que, si on prend du recul, est-ce que vous considérez que la mafia italo-américaine a eu un vrai impact sur le gouvernement des États-Unis ?
Alors, mon livre est un récit historique et je montre quelles ont été ses relations, en effet, ses compromissions. Après, ce qui est toujours très difficile à déterminer, à exposer, c'est s'il y a eu en quelque sorte un retour sur investissement, s'ils ont renvoyé l'ascenseur pour parler vulgairement. Il n'y a pas de preuves, par exemple, sous la présidence Roosevelt, alors que la compromission existe. En revanche, il y a des preuves pour une affaire gravissime sous la présidence Truman. On voit très bien que sous les présidences Johnson et Nixon, la lutte anti-mafia s'arrête brutalement avec l'élection de ces deux présidents. Et on voit également que sous la présidence Reagan, il y a là également des retours d'ascenseur, c'est-à-dire que manifestement, l'État fédéral sous Reagan décide d'étouffer un certain nombre d'affaires gravissimes qui touchaient la mafia italo-américaine. Donc on a de temps à autre des éléments, des indices qui nous montrent en effet que ces élections d'hommes compromis ont pu avoir un impact sur la lutte anticriminelle.
Dernière question. Aujourd'hui, vous avez une expression qui est celle du FBI. De temps en temps, on passe le gazon, donc on passe la tondeuse parce qu'il ne faut pas trop que la mafia apparaisse. C'est toujours le cas ?
La mafia est peut-être en déclin relatif, mais elle est toujours bien vivante. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce type d'organisation criminelle est indéracinable. Ah. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser. Donc, dans une logique un petit peu cynique, le FBI dit souvent, à défaut de pouvoir la déraciner, quand elle remonte, quand la tête sort un peu trop, on tond la pelouse. Voilà. Mais d'une certaine manière, c'est une manière de l'entretenir.
Voilà. Je vous remercie, Jean-François Guéraud, pour vos réponses.
C'est moi qui vous remercie.
L'entretien de l'intelligence économique est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur France24.com, sur nos réseaux sociaux et sur nos podcasts. Au revoir.